Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Philippe Hardy. Philippe utilise un type de jeu particulier pour mettre en situation les participants, les amener à prendre des décisions et à réagir à des aléas. Ce jeu, c'est le wargame ou le jeu de guerre. Dans cet épisode, Philippe met en évidence le potentiel du wargame dans un contexte de réflexion stratégique. Bonne écoute. Bonjour Philippe Hardy, bienvenue sur Homo Ludens. Est-ce que je peux te laisser te présenter ?
Alors bonjour Mathieu, oui bien sûr, merci beaucoup de m'interviewer aujourd'hui. Et donc, Philippe Hardy, j'ai 51 ans et je suis aujourd'hui en activité indépendante. Après avoir été pendant une vingtaine d'années et avoir exercé différentes fonctions de direction dans des industries, chimie, santé et pharma. Et j'ai créé en 2014 la société Bleu Horizon Conseil, dont je suis le gérant. Voilà, et maintenant, donc, je suis consultant, formateur et enseignant en innovation, stratégie et gamification, ou ludification, comme on dit en français.
Et d'où te vient cet intérêt pour le jeu ?
Le jeu, je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque vers 15 ans, donc dans les années 80, j'ai acheté mon premier jeu, qui était un jeu en anglais avec une dizaine de pages de règles, je me souviens, ce qui à l'époque nécessitait un effort quand même de traduction et de compréhension, puisque c'était assez nouveau en France. Ce sont des jeux qui venaient des États-Unis, des wargames principalement. Voilà, depuis cette date-là, je n'ai pas arrêté d'acheter des jeux, de jouer à des wargames en solitaire ou avec des amis. Et étant passionné d'histoire militaire, ce genre de jeu, les wargames, se prête bien à la simulation de conflits, de batailles, de guerres, etc. Donc, maintenant j'ai toujours cette passion-là. En 2012, j'ai créé mon premier jeu qui a été édité par un magazine de jeux d'histoire français qui s'appelle Vae Victis, qui existe depuis 1995. C'est un bimestriel qui propose systématiquement des jeux en encart avec cartes, pions et livrets de règles. Et puis depuis cette date-là, j'ai créé une dizaine de jeux qui ont tous été édités professionnellement par Vae Victis, que je viens de citer, mais également par d'autres sociétés françaises, hein, puisque c'est très dynamique le monde du jeu en France avec Exacim et Ludifolie. Voilà. Et d'ailleurs, les semaines qui viennent, j'ai un deuxième jeu en boîte qui va sortir chez Exacim.
D'accord. Tu nous as parlé de wargame. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Tout à fait. Alors, un wargame, la traduction en français, c'est un jeu de guerre. Alors, on n'aime pas trop parler de jeu de guerre, et souvent les wargames font référence à soit un film, soit à des jeux vidéo. Mais les wargames dont je parle sont plutôt des jeux de plateau, dans lesquels il y a deux équipes qui s'affrontent, enfin deux camps qui s'affrontent, souvent deux joueurs, qui représentent chacun un belligérant, hein, pour simuler une bataille, un conflit. Et donc, on a une carte qui peut couvrir une table ou qui peut aussi être un peu plus petite, qui représente le lieu géographique où s'est déroulée la bataille et sur lequel on a des zones ou des hexagones ou des cases sur lesquelles on déplace des pions qui représentent des armées, qui représentent des unités. Et donc, en fait, on se met à la place d'un chef d'armée on va bien décider des choix stratégiques ou tactiques à la façon d'un jeu d'échecs, hein, on va déplacer ses pions et l'adversaire va faire de même pour que chacun puisse atteindre son objectif, qui peut être la prise d'un espace géographique ou l'élimination d'unités adverses, comme on peut avoir aux échecs. Voilà ce que c'est qu'un wargame. C'est une discipline qui est née au 19e siècle, enfin, je dirais plutôt au 17e siècle, ça s'appelait le Kingsport, c'était le jeu des rois. Ça s'est développé ensuite, ça a été repris par les états-majors et notamment les états-majors allemands. Le terme était Kriegsspiel, et donc c'était une façon de simuler les combats futurs ou des combats passés, d'en tirer des enseignements. Et ça s'est très développé au XXe siècle, notamment dans la deuxième moitié, à partir de 1950, notamment chez nos amis anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre. Et c'est venu en France, donc d'un côté par le biais de grand public, je dirais, dans les années 80. Et aujourd'hui, c'est en train de se développer et puis de devenir même au niveau des états-majors, puisque l'armée française utilise des jeux depuis quelque temps.
Mmh. Donc justement, ouais, dans quel contexte utilise-t-on un wargame ? Tu as parlé des états-majors, est-ce qu'il y a aussi d'autres...
Oui, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser. On va utiliser ça aussi bien à des fins civiles que militaires. Alors, à des fins militaires, donc on comprend bien l'utilité bien de simuler des conflits armés, tout en restant dans une salle bien à l'abri. Et à des fins, j'irais civiles, c'est pour souvent simuler des crises. Crise humanitaire, ou bien tout simplement de simuler finalement le monde réel où on a des concurrents qui viennent et bien finalement conquérir vos parts de marché. Et donc là, on a intérêt à se mettre à la place d'un concurrent ou de jouer son entreprise pour voir comment le concurrent va réagir, quelles actions on peut mener, etc. Voilà. Alors, aujourd'hui, pourquoi j'ai utilisé des jeux, comme je l'avais dit, j'ai créé mon activité en 2014 et aujourd'hui je suis consultant, formateur, enseignant en innovation, stratégie et gamification. Et bien j'ai croisé ça avec ma passion du jeu et bien je me suis dit qu'il y avait un intérêt à croiser ces deux univers-là. D'une part parce que la stratégie d'entreprise consiste à répondre à des questions qui sont où va-t-on et comment y va-t-on. Et cette démarche-là se fait par trois étapes, hein, avec une analyse, un diagnostic, prise de décision, puis un plan d'action. Et c'est exactement cette démarche-là que l'on joue quand on joue à un wargame. C'est-à-dire qu'on va on va analyser une situation, la sienne, celle de l'adversaire, on va établir un diagnostic, et en fonction des objectifs que l'on va avoir à mener, eh bien, on va prendre des décisions, et puis mettre en place un plan d'action, c'est-à-dire qu'on va déplacer ses troupes, aller à la confrontation, essayer d'emporter cette confrontation. Voilà, donc c'est ce point-là qui m'a intéressé, c'est que la stratégie, finalement, elle est très transversale. On la trouve dans l'univers militaire, mais dans l'univers des entreprises. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, concernant la partie que je connais bien, qui est le management de l'innovation, c'est une démarche qui est assez incertaine, qui nécessite de prendre des risques et qui ne mène pas toujours au succès. Et donc, il est intéressant d'apprendre de ses erreurs et d'oser prendre des décisions. Et en fait, le jeu en général et le wargame en particulier, c'est vraiment la place idéale pour tester, essayer et sans prendre de risques. C'est-à-dire qu'on est à l'abri et les décisions qu'on va prendre vont pas avoir de conséquences graves. Donc ça, en fait, le jeu ouvre un espace spécifique nos choix n'ont plus de conséquences. C'est un moyen de prendre des décisions sans risque pour les participants et l'entreprise. Donc voilà pourquoi j'ai souhaité utiliser les jeux dans un contexte professionnel.
Mmh. D'accord. Est-ce que tu remarques aussi des bénéfices par rapport aux joueurs ? Parce que donc là, le wargame permet de transposer, par exemple, le processus de prise de décision d'une entreprise dans un jeu. Oui. Est-ce que les participants à un wargame sont aussi plus à même, du coup, de prendre des décisions quand c'est un jeu que dans un autre cadre
Pas
forcément la vraie vie, mais il y a peut-être d'autres manières d'aider à prendre des décisions qui n'utilisent pas de jeu. Est-ce que du coup le jeu apporte des choses en plus ?
Alors oui, bien évidemment, parce que comme je le disais, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que les conséquences, si on prend une mauvaise décision, il ne va pas avoir de conséquences graves. Et en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir analyser le choix, cette décision-là et ses conséquences. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, d'une part. Et les personnes que l'on va mettre autour d'une table vont être, je dirais, détendues, décomplexées, ce qui fait qu'ils vont... Leur jugement ne va pas être, je dirais, perturbé par tout le stress de l'environnement qu'il peut y avoir. Donc, en fait, on va être vraiment dans les meilleures conditions possibles pour apprendre, échanger avec ses collègues, avec les autres membres de l'équipe et faire ces choix-là, éclairés en fonction des événements de l'analyse qui a été réalisée par l'équipe. Donc c'est vraiment je dirais, un moment privilégié où l'on peut eh bien, prendre ses décisions, échanger avec les membres d'équipe, décloisonner également les personnes de différents services et les faire bosser ensemble.
Oui, d'accord. Et quels sont les avantages et inconvénients par rapport à un jeu vidéo ou un jeu de rôle ?
Alors, le jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, effectivement, aujourd'hui, il y a pléthore de jeux vidéo, mais on est toujours derrière un écran. On peut être en contact avec, on peut jouer en ligne, effectivement, mais on est derrière un écran. Moi, ce que je souhaitais, puisque les jeux que je propose sont des jeux de plateau, hein, on réunit les gens autour d'une table, les gens vont être en confrontation directe, ils vont voir leurs adversaires, et on va pouvoir échanger avec eux. C'est-à-dire que on est dans la concrétisation, l'adversaire n'est pas abstrait. Et puis c'est beaucoup plus convivial, je trouve, d'être en relation avec des personnes pour décloisonner, alors qu'on est toute la journée, la plupart du temps, derrière un ordinateur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, développer un jeu vidéo, quelque chose d'assez cher, qui nécessite pas mal de temps de développement, alors qu'un jeu de plateau peut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus souple après pour être adapté. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous-même modifier une carte, modifier un pion, modifier les règles très facilement, alors qu'avec un jeu vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, concernant les jeux de rôle, c'est quelque chose qui n'est pas facile à jouer pour des personnes qui n'ont pas l'habitude du jeu. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que quand on propose à une entreprise de jouer, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas envie de jouer ou qui ont oublié de jouer, qui ne souhaitent pas jouer. Et si on leur demande un effort supplémentaire, c'est-à-dire un jeu de rôle où on est dans la peau d'un personnage, c'est compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que vis-à-vis des jeux vidéo et des jeux de rôle, je pense que le jeu de plateau est le meilleur compromis dans un environnement professionnel.
Mmh, d'accord. Et comment se déroule une session de jeu, de Wargames ?
Alors, là, on est dans un univers professionnel. Donc, le wargame, en fait, il y a des règles de jeu. On a différentes phases. Pour faire simple, on va avoir une phase d'un joueur A, la phase d'un joueur B. Souvent, il y a une phase commune. Et puis après, on passe au tour suivant, vraiment dans les grandes lignes. Ce qu'il y a d'important dans un environnement professionnel, c'est qu'on souhaite tirer un enseignement du jeu. Donc, il y a une partie, effectivement, où on va jouer, où on va mettre les personnes en confrontation. Donc, c'est la plupart du temps, ça va être équipe contre équipe, hein, équipe de 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et donc, ils vont jouer. L'adversaire va réagir et jouer sa phase. Et ensuite, on va marquer une pause. Et cette pause va être consacrée au débriefing, pour que les joueurs puissent échanger et apprendre sur les choix stratégiques et leurs conséquences. Voilà. Et ensuite, on va passer à la phase suivante. Il va y avoir une deuxième phase de jeu, un deuxième tour de jeu, pardon. Ça permet également, donc, ces phases de débriefing, d'ajouter des éléments un peu plus complexes pour rendre le jeu un peu plus réaliste. Ce qui fait que les joueurs vont apprendre petit à petit. Ils vont faire une partie simple, un ou deux tours de jeu assez simple, puis on va rajouter un peu de complexité. Par exemple, on peut rajouter des éléments aléatoires dans un jeu, ce qui fait que les participants vont devoir réagir à ces éléments aléatoires. Je parle d'aléas et non pas de risques, hein, les risques, eux, sont déjà identifiés. Là, c'est vraiment quelque chose d'aléatoire qui n'était pas prévu. Voilà comment ça se passe. Alors, bien évidemment, les règles doivent être assez simples, hein. On parle de 2 à 3 pages de règles, et elles doivent être facilement présentées à l'oral. C'est-à-dire qu'il va y avoir un support que l'on va donner aux participants avant de démarrer, et l'animateur, parce qu'il y aura un animateur, va expliquer le jeu à l'oral. Voilà comment ça se déroule une séance de wargame.
Et quel est le travail à faire en amont ? Est-ce que le jeu est développé avec les parties prenantes ?
Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une très bonne question, parce que dans un univers professionnel, il ne faut pas que le jeu soit déconnecté de l'univers dans lequel les personnes évoluent. Il ne faut pas que ce soit déconnecté, parce qu'il faut embarquer les personnes, il faut que ce soit immersif, il faut qu'ils puissent se raccrocher à des choses tangibles qu'ils ont l'habitude de voir. Et donc, pour ce faire, eh bien, on va d'abord échanger sur les objectifs du jeu, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire ça peut être tout à fait rechercher de la cohésion d'équipe, décloisonner les services, mais également ça peut être de mettre les personnes en situation de prendre des décisions, mettre les personnes en situation de réagir face aux aléas, ou tout simplement de mener un objectif commun et un objectif personnel. C'est-à-dire, voilà, on doit atteindre mon objectif, on doit prendre en compte le collectif, mais à la fois, il ne faut pas qu'on néglige son objectif personnel. Donc, on va réfléchir avec les participants, ils vont nous donner des éléments qui vont permettre de créer un univers qui ressemble à l'univers professionnel dans lequel ils ont l'habitude d'évoluer. Donc, il y a un travail en amont de développement, de conception, qui est indispensable et dans lequel on va intégrer les participants. Alors, pas tous les futurs joueurs, mais en tout cas, un représentant de, je dirais, chaque service qui va être représenté dans le jeu.
Mmh. Et est-ce que, du coup, dans un wargame, est-ce qu'on essaye de chercher à reproduire des événements réels ou, je pense surtout à la partie plus militaire, du coup, est-ce qu'on cherche à reproduire des batailles qui ont déjà existé et à les transposer dans quelque chose de futur? Ou est-ce qu'on s'appuie beaucoup sur de l'aspect historique?
Oui, oui. Alors, tout ça, effectivement. Alors, il y a bien deux choses différentes. Il y a la partie militaire. Donc là, je ne vais pas forcément parler de la partie militaire qui est bien spéciale, mais effectivement, on essaie de tirer des enseignements du passé et puis de créer de nouveaux jeux qui permettent de simuler, je dirais, un futur. Effectivement, là, j'interviens auprès de l'école militaire de Saint-Cyr et de l'OTAN pour effectivement simuler ce genre de choses. Donc ça, c'est bien particulier. Concernant notre univers professionnel aujourd'hui, et je dirais civil, ce que l'on souhaite faire, c'est comprendre comment vont réagir les concurrents face à des actions que l'on va mener. C'est surtout ça qui est recherché, d'une part, et puis également savoir comment on pourrait s'améliorer dans une situation concurrentielle difficile actuelle. Et là, le jeu permet de revoir différents éléments de l'entreprise que l'on peut valoriser, améliorer pour les rendre plus performants.
Mmh. Ok. Tu as parlé de phases de débriefing régulières. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du jeu? Est-ce qu'il y a aussi un gros débriefing ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe lorsqu'on a terminé de jouer?
Alors, on va demander aux participants ce qu'ils ont appris, comment ils ont vécu cette expérience, qui est souvent une expérience unique dans une entreprise. Il y a peu d'entreprises qui créent des jeux. Ça commence à se démocratiser, on le voit de plus en plus, effectivement, en ce moment. Il y a beaucoup d'offres, d'ailleurs. Mais il y a toujours une phase de débriefing. Donc, sur la forme, est-ce que le jeu leur a plu? Est-ce qu'ils ont passé un bon moment? Est-ce que c'était agréable, etc., etc. Ça, c'est, inhérent à toute formation. On va demander ça. Et puis ensuite, sur le fond, qu'est-ce qu'ils ont appris? Voilà. Donc ça, c'est cette partie-là qui est intéressante parce que le jeu, finalement, va permettre d'apprendre de façon, décomplexée, ludique, amusante. On apprend sans... C'est quelque chose qui n'est pas descendant puisqu'on va participer. C'est pas un enseignement. On participe. Et là, on leur demande effectivement tout ce qu'ils ont pu en tirer et tout ce qu'ils pourront en tirer pour leur avenir professionnel, leur quotidien. Ça, c'est très important, effectivement, cette phase finale de débriefing. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que dans la phase de débriefing, comme c'est un jeu, il y a une compétition, il y a des gagnants, donc il y a toujours une remise de trophée.
D'accord.
D'ailleurs, le terme coopétition, c'est le format idéal aujourd'hui pour mettre des équipes ensemble. C'est-à-dire que coopétition, c'est un mélange de compétition inter-équipe et de collaboration intra-équipe, c'est-à-dire que on va mettre des personnes, 5-6 personnes ensemble, qui vont constituer une équipe et qui vont se confronter à d'autres équipes qui ont les mêmes formats. Mmh. Voilà. Voilà donc l'intérêt aussi du débriefing, c'est de donner le trophée aux gagnants, à ceux qui ont été, les plus performants.
D'accord. Et du coup, quel retour as-tu des joueurs? Est-ce que ça leur plaît? Est-ce que ça...
Alors, oui. Eh bien, écoute, donc, les jeux auxquels j'ai participé, que j'ai animé, il y en a deux. Hein. Enfin, j'ai créé deux jeux. Ça, ce sont les exemples concrets de jeux que j'ai déployés. Donc, ce sont deux jeux de plateau. Le premier s'appelle Go or No Go, et le second s'appelle Générisque. Donc, en fait, ce sont des jeux qui mettent en face de différentes équipes. Donc, le jeu de Go or No Go met en face à face deux équipes. L'une représente une entreprise et l'autre représente l'adversaire, le concurrent. Voilà. Donc, ce jeu est basé sur des éléments de la chaîne de valeur de Porter, qui est un économiste, hein, qui permet de confronter chaque activité qui crée de la valeur de l'entreprise à celle du concurrent. Et donc, en fait, on va essayer d'être mieux disant que le concurrent dans chacune de ces activités qui créent de la valeur dans l'entreprise. Donc, ça va être, on parle de logistique entrant, de la production, logistique sortante, marketing et vente et SAV pour les principales. Et donc, on va leur dire, voilà, vous confrontez à votre adversaire, est-ce que là, vous êtes meilleur ou est-ce que lui, il est meilleur? Et donc, par un système de déplacement de marqueurs, de pierres comme blanche ou noire, comme on trouve dans le jeu de Go, eh bien, on va dire, voilà, moi ici, mettons, j'ai un rapport de force de 1 contre 2, il est bien meilleur que moi, donc qu'est-ce que je peux faire pour eh bien, rééquilibrer ce rapport de force, voire l'améliorer? Et donc, on demande aux participants eh bien, d'imaginer un plan d'action qui permettrait d'être mieux disant que le concurrent sur cette activité particulière. Donc là, on les fait réfléchir, et ce qui fait qu'à la fin d'une séance qui va durer une demi-journée ou une journée, eh bien, les personnes ont déjà des idées concrètes sur toutes les actions qu'ils ont à mener dans chaque activité qui crée de la valeur dans leur entreprise pour être au niveau, voire meilleur que le concurrent. Donc ça, c'est le premier jeu, Go or No Go. Donc forcément, il y a un énorme bénéfice puisqu'on va mettre les gens à réfléchir, on va les mettre ensemble, on va ce qu'on appelle libérer l'intelligence collective, et à la fin, c'est toujours un succès. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois, ça se fait avec des comités de direction, ça se fait avec des services marketing, commerciaux, etc., des gens qui sont confrontés à la concurrence et qui connaissent la concurrence. Ça, c'est le premier jeu que j'ai déployé. Le second s'appelle Générisque. Donc, on parlait de... Donc, Générisque, en fait, ça a été développé pour l'industrie pharmaceutique. Et donc là, c'est un jeu qui permet de réunir plusieurs équipes de 6. Donc, on peut avoir 3, 4 équipes de 6. Et elle permet permet d'embrasser toute la chaîne de production de médicaments, de la R&D jusqu'à la commercialisation. On a chaque membre d'équipe qui va être responsable d'une étape de développement d'un médicament, et tous les membres ensemble doivent développer ces médicaments et les commercialiser sur un marché. Donc l'équipe va avoir un objectif collectif, hein, qui va être de faire les bons choix stratégiques pour vendre des médicaments et faire face à la concurrence. Et chaque membre va avoir un objectif personnel. Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans la vraie vie. Donc là, c'est quelque chose d'assez immersif. Ça peut se jouer sur un jour ou deux jours. Eh bien, à chaque fois que j'ai déployé ce jeu-là, ça a été un franc succès parce que déjà les gens ont passé un bon moment. Ils ont pris des décisions, vu les réactions de la concurrence, essayé de développer leur marché, fait face aux aléas. Voilà. Donc c'est voilà les types de jeux que j'ai déployés qui sont à chaque fois très très bénéfiques pour tous les participants.
Ok, super, merci beaucoup. Du coup, nous arrivons aux dernières questions.
Oui.
As-tu un jeu que tu nous recommandes?
Alors, c'est compliqué ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui sur le marché. Il y a des choses qui vont être ni plus ni moins que un réaménagement de jeux très basiques, comme un jeu de loi, comme un Monopoly, un Trivial Pursuit, etc. Puis ou des jeux de cartes. Donc c'est très compliqué de vous recommander un jeu. Par contre, le jeu, je dirais, qui est le plus approprié à votre environnement, la plupart du temps, il est fait sur mesure. Il est fait sur mesure pour qu'il soit suffisamment immersif. Il faut qu'il soit de bonne facture, c'est-à-dire une facture professionnelle, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir des bouts de papier avec de mauvais dessins. Il faut que ce soit très immersif, bien léché. Voilà, donc c'est ça à mon avis c'est important. Il faut que ce soit proche de la réalité professionnelle pour que les participants puissent s'immerger. Alors ça peut nécessiter un investissement important au départ parce qu'on va avoir un temps de développement assez long. Mais ensuite, une fois qu'on a un jeu, qui est un jeu en matérialisé, hein, avec des cartes, des pions, des petites cartes à jouer, des marqueurs, etc., une boîte, eh bien, c'est quelque chose qui va être autoporté. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une ou deux personnes dans l'entreprise qui accrochent et vont pouvoir ensuite déployer ça en interne. Et c'est, je dirais, idéal pour accueillir de nouveaux arrivants et notamment pour tout ce qui est campus interne, université d'entreprise. Ça permet vraiment de mixer les populations. Donc il faut que ce soit le jeu idéal, c'est un jeu qui colle vraiment à la réalité de l'entreprise et à ses objectifs.
Ok. Si on souhaite en savoir plus sur toi et ton travail, où est-ce qu'on peut s'informer ?
Eh bien, j'ai un site internet qui s'appelle Bleu Horizon Conseil en un seul mot et au singulier, bleuhorizonconseil.com. Dessus, j'ai un blog. Je présente également mes différentes actions. Donc, on peut se renseigner là-dessus, effectivement. Si on souhaite se renseigner sur des jeux historiques, il y a une plateforme qui s'appelle Board Game Geek, qui référence tous les jeux de plateau qui depuis le début des jeux de plateau. Donc c'est une base de données énorme. Il y a énormément de wargames qui sont cités, qui sont notés, appréciés, commentés, etc. Donc c'est très intéressant. Donc Bleu Horizon Conseil, Board Game Geek, là ce sont deux sites sur lesquels vous pouvez aller voir d'un côté pour Bleu Horizon Conseil mes jeux professionnels destination donc de professionnels civils, et puis les jeux, je dirais, plus ludiques, militaires, ça va être sur Board Game Geek. Voilà.
Ok, ça marche. Merci beaucoup, Philippe Hardy.
Merci beaucoup, Mathieu. C'était très intéressant d'échanger, puis j'espère qu'il y aura des vocations. À bientôt.
À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.